Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les derniers jours de campagne avec les candidats qui mobilisent chacun leur camp. Analyse de la situation à quelques jours donc du scrutin du premier tour avec Stéphane Robert. Le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas soumet dans une lettre une liste de 10 chantiers pour préparer, dit-il, le futur de la justice en France. Précision de Florence Turbe. Dans l'actualité sociale, mobilisation des auto-écoles contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire. Il dénonce notamment les risques d'ubérisation de leur profession. C'est un dossier suivi pour nous par Hakim Kasmi. L'actualité à l'étranger, en Turquie, le principal parti d'opposition présente une demande d'annulation des résultats du référendum sur le renforcement des pouvoirs du président Erdogan. Correspondance d'Éric Biegala et puis le vice-président américain Mike Pence en visite à Tokyo où il réitère l'engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon face à la Corée du Nord. On sera en ligne avec Frédéric Charles. À l'instant, il y a quelques minutes, la première ministre britannique Theresa May appelle la tenue d'élections législatives anticipées pour le 8 juin. On sera en ligne avec Antoine Gignot, notre correspondant. L'invité de la séquence interview, ce sera l'avocat Laurent Inker, qui est soutien du candidat Jean Lassalle. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Avant le patrimoine, avant les territoires, avant les sciences en campagne, aujourd'hui le travail en campagne. On revient sur ce grand sujet, grande thématique de la campagne présidentielle pour comprendre les lignes de clivage entre les différents candidats et aussi la portée de ce sujet avec nos invités, le philosophe Bernard Stiegler et Arthur de Grave, qui est membre du collectif Wisher.
Voici donc les derniers jours de cette campagne avec la mobilisation pour l'ensemble des candidats pour tenter de ramener leurs électeurs, de les conserver en tout cas, peut-être d'en conquérir d'autres encore. Marine Le Pen précise ce matin que le moratoire sur l'immigration annoncé par elle hier va être de quelques semaines seulement et elle demandera le rappel des réservistes pour aider au rétablissement des frontières. François Fillon veut lui une majorité qui irait de sens commun à François Baroin. Il affirme que les Français ne supportent pas l'idée qu'il y aurait des Français de seconde zone. Emmanuel Macron est venu ce matin tôt à Rungis pour s'afficher comme le candidat de ceux qui veulent réussir par le travail, voulant être élu président du travail, c'est son expression. Jean-Luc Mélenchon va se démultiplier, son meeting à Dijon va être répliqué par un hologramme dans 6 autres villes et Benoît Hamon va se retrouver en terre socialiste à Toulouse avant-dernier meeting, donc avant un rassemblement Place de la République à Paris. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Bon, rien que de très normal, évidemment, les candidats font leur dernière ligne droite le plus intensément possible, mais il faut dire que l'heure n'est plus vraiment maintenant à la conquête, mais on le sent bien dans ce qui est dit à la mobilisation des troupes.
Oui, il y a différentes phases dans une campagne électorale. Là, on est dans la dernière ligne droite et dans cette phase, même si beaucoup d'électeurs semblent encore dans l'indécision, on peut dire dans le sillage du philosophe Raphaël Eindhoven que ces électeurs sont moins dans l'indécision que dans une phase de délibération avec eux-mêmes. Ils ne sont pas encore complètement sûrs, mais ils ont une idée du candidat pour qui ils devraient voter et ils ont besoin encore de peser le pour, le contre, afin, en quelque sorte, d'assurer, de conforter ce choix encore en gestation. Et dans cette phase, pour les candidats, il est donc beaucoup moins question de convaincre, de conquérir de nouveaux électeurs que de mobiliser ceux qui, a priori, vont voter pour vous. C'est bien souvent là que se joue la victoire ou la défaite à une élection, dans le différentiel de mobilisation de son électorat. Et c'était flagrant hier pour Marine Le Pen, qui a réuni ses partisans au Zénith à Paris. Elle a axé l'essentiel de son discours sur l'immigration, afin de toucher le cœur militant de l'électorat frontiste et de mobiliser les troupes pour s'assurer qu'elles iront bien déposer un bulletin dans l'urne dimanche prochain. C'est un peu la même chose pour François Fillon. Alors lui, avec un peu plus de difficultés, puisque compte tenu de ses ennuis judiciaires, une partie de la droite a beaucoup de mal à lui pardonner. Raison pour laquelle il a affiché son soutien à Christian Estrosi hier à Nice, quand il s'est fait siffler, et qu'il a dit ce matin qu'il voulait rassembler toute la droite. Mais le week-end dernier, lui aussi a mis en joue le cœur de son électorat, en célébrant la fête de Pâques avec des chrétiens coptes, et en affirmant qu'il pourrait très bien intégrer des ministres du mouvement Sens Commun dans son gouvernement.
Alors comment ça se présente cette question de la mobilisation pour les autres candidats, Emmanuel Macron notamment, Jean-Luc Mélenchon et dans une certaine mesure Benoît Hamon qui n'ont pas encore complètement fixé leur troupe.
C'est un peu la même chose pour Emmanuel Macron à l'occasion de son dernier grand meeting de campagne hier à Bercy. Il a expliqué qu'il ne fallait pas avoir peur de l'avenir, pas avoir peur de la mondialisation, mais au contraire qu'il fallait avoir confiance, qu'avec lui la France allait s'adapter, se moderniser. C'est donc là encore à son électorat qu'il s'adresse, un électorat largement favorable à l'ouverture sur l'Europe et sur le monde. Même chose quand il a dit « moi je veux le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite et même le meilleur du centre en regardant François Bayrou. Pour Mélenchon, en revanche, c'est un peu différent car lui se retrouve dans une dynamique soudaine, tardive et inattendue. Et donc, lui est encore dans une phase de conquête dans laquelle il peut espérer, dans laquelle même il doit conquérir de nouveaux électeurs. Raison pour laquelle il se démultiplie tous azimuts et qu'il essaie de convaincre les classes populaires tentées par le vote FN. Quant à Benoît Hamon, lui, eh bien, il est largement distancé dans les enquêtes d'opinion et il essaie dans une incantation désespérée de convaincre un électorat qui semble avoir en grande majorité déserté et céder au réflexe du vote utile, soit en faveur de Mélenchon, soit en faveur de Macron.
Merci beaucoup Stéphane. Robert, on suivra donc avec vous encore cette dernière semaine de campagne. Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, laisse une lettre en héritage, 57 pages, sur le journal en ligne d'Alloz Actualité. Le garde des Sceaux y soumet une liste de une dizaine de chantiers pour réparer le présent, dit-il, et préparer le futur de la justice en France. Ce matin, sur CNews, M. Urvoas, qui soutient Benoît Hamon, estime que François Fillon préfère avoir une magistrature tenue en laisse qu'une justice indépendante, et que la notion d'indépendance de la justice ne fait pas partie de son vocabulaire. C'est une lettre, Florence Thur, qui vient donc rappeler les grands axes d'une politique judiciaire qu'il estime aujourd'hui menacée par certains candidats.
Un ministre doit se comporter comme un jardinier, planter des graines dont seuls ses successeurs récolteront les fruits. Pour appuyer son propos voltairien, Jean-Jacques Urvoas a donc planté un chêne dans la cour de la chancellerie et publié ce texte de 60 pages chez Dalloz, l'éditeur spécialiste de la justice, avec 10 chantiers indispensables à ses yeux, à commencer par une loi de programmation pour la justice sous le prochain quinquennat, une loi qui prenne en compte les moyens de fonctionnement nécessaires pour les tribunaux et l'état de vétusté du parc carcéral. L'emprisonnement occupe d'ailleurs 4 chapitres entiers du propos, entre l'aménagement de la peine, l'ambition d'une justice restaurative, la prise en charge des mineurs et bien sûr les conditions de détention. Jamais la surpopulation carcérale n'a atteint un tel niveau en France et les mouvements actuels des surveillants démontrent les tensions quotidiennes qui en découlent. Le plan de construction engagé par Christiane Taubira doit se poursuivre, estime le garde des Sceaux, avec 33 établissements et 28 quartiers de préparation à la sortie. Il est par ailleurs opposé au principe des partenariats publics-privés et réaffirme sa volonté de garantir l'encellulement individuel, objectif jamais atteint depuis la loi Béranger du 5 juin 1875, qui en posait pourtant le principe. Mais son testament appelle aussi de ses voeux d'autres réformes, le rapprochement de la justice et du citoyen, la mise en place rapide d'un parquet européen, la suppression de la Cour de justice de la République et la réforme du Conseil constitutionnel, vaste chantier que Jean-Jacques Urvoas livre donc à son successeur, toujours à la manière d'un jardinier, avec des pousses qu'il s'agit de protéger, mais aussi beaucoup d'autres grands arbres enracinés.
Florence Thur, merci. On salue l'invité de la séquence interview, Laurent Inker. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes avocat et soutien de Jean Lassalle. C'est pourquoi vous êtes dans ce studio, puisqu'on parle de justice. Je crois que c'est vous qui avez rédigé la partie justice de ce programme de Jean Lassalle. Quelles sont vos grandes lignes?
Tout à fait. Alors, Jean Lassalle m'a demandé effectivement de réfléchir à la réforme possible de la justice qui aujourd'hui, comme vient de l'indiquer le garde des Sceaux, est totalement sinistrée. Alors je crois qu'il est important que la justice, qui est un service public fondamental, qui est dans le cadre du pouvoir régalien essentiel dans le fonctionnement d'une démocratie et d'une république, puisse fonctionner normalement.
C'est une question de moyens, c'est une question de...
Alors il y a trois niveaux. Il y a premièrement sans doute une question de moyens. Il manque actuellement 500 magistrats, un millier de greffiers, des surveillants dans les établissements pénitentiaires, des agents de probation. C'est une question de moyens, mais c'est peut-être aussi une question de rapprocher la justice davantage du citoyen, parce que aujourd'hui, avec la désertification en France, les services publics, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, que ce soit les tribunaux, ont effectivement déserté le territoire. Donc,
c'est un des thèmes forts de la campagne de Jean Lassalle.
C'est le thème fort de Jean Lassalle.
Voilà, Laurent Inker, merci beaucoup. On vous retrouve donc dans la dernière partie de cette édition. Dans l'actualité sociale maintenant, mobilisation des auto-écoles contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire. Il y avait plusieurs centaines de véhicules qui défilaient ce matin, notamment à Paris, pour dénoncer ce que les spécialistes appellent l'ubérisation de leur profession, profession d'auto-école. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce que cette inquiétude des auto-écoles est fondée?
Alors, ce dispositif, qui fait partie de la loi Macron, avait initialement pour but de réduire les délais d'attente aux examens du permis de conduire. Une attente qui peut atteindre jusqu'à 2 mois dans les régions les plus peuplées, comme l'Île-de-France par exemple. Avec ce nouveau dispositif numérique, d'autres opérateurs comme la Poste par exemple, eh bien, se sont infiltrés dans la niche du permis de conduire, ce qui a permis par exemple de réduire considérablement les délais d'attente dans une ville comme Marseille, où désormais on n'attend plus que 5 à 10 jours pour passer son code par exemple. Pour faire passer les épreuves, l'entreprise spécialisée dans le courrier, a recours notamment à d'anciens facteurs à la retraite. Ces derniers sont habitués à échanger avec le grand public, et puis c'est pas négligeable, ils peuvent ainsi arrondir leur fin de mois. Du côté de la Poste, qui diversifie ses activités ces dernières années, la téléphonie, la banque et désormais le permis de conduire, on ne cache pas que cela permet de gagner aussi beaucoup d'argent, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Les méthodes que dénoncent les syndicats d'inspecteurs et d'auto-écoles, ils estiment que cela va nuire à la formation des jeunes conducteurs et cela même pourrait avoir des répercussions sur la sécurité routière. Enfin, selon les partenaires sociaux, cela pourrait aussi avoir des conséquences sur l'emploi. 45 000 postes pourraient être détruits avec l'ubérisation du permis de conduire dans un secteur qui représente 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% vont directement dans les caisses de l'État sous la forme des charges sociales. Les syndicats doivent être reçus cet après-midi à Matignon.
Hakim Kasmi, merci.
Midi 42 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Mercier. La première ministre britannique Theresa May appelle à la tenue d'élections législatives anticipées, ce sera le 8 juin.
Et oui, c'est une annonce surprise faite il y a quelques minutes devant sa résidence de Downing Street. Nous sommes 3 semaines après le déclenchement du Brexit. J'ai donc décidé d'appeler à des législatives anticipées le 8 juin prochain, a dit Madame May. On est en ligne avec Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Comment comprendre cette annonce ?
Comme une réaction aux derniers débats, aux dernières contestations à l'intérieur du Parlement de Westminster. C'est ce qu'explique Theresa May. J'ai pris la décision très récemment, un peu à contre-cœur, mais ces législatives sont nécessaires, explique la Première Ministre, pour asseoir l'autorité du gouvernement. Il faut, pour pouvoir négocier les conditions de sortie de l'Union européenne, que le Parti conservateur ait une vraie légitimité, une majorité, une position qui ne soit pas contestée. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Les divisions à l'intérieur du Parlement, à l'intérieur du pays risque d'entraver le cours des négociations. Les responsables, explique Theresa May, ce sont les leaders de l'opposition, la gauche, les travaillistes, les libéraux-démocrates, le parti indépendantiste écossais surtout, dont les élus ces derniers mois se sont fait entendre en critiquant systématiquement tous les projets du gouvernement liés au Brexit. Ces législatives sont donc, dans l'esprit de la Première ministre, l'occasion de faire taire toutes les voix dissidentes, d'asseoir son autorité. Pour qu'elles aient lieu, il va tout de même falloir que le Parlement vote et valide le principe d'élection anticipée avec au moins 2/3 des voix. Il y aura ensuite 6 semaines de campagne électorale avant le scrutin prévu au début du mois de juin.
Voilà, en élection anticipée en Grande-Bretagne le 8 juin, donc effectivement, sous réserve de validation par le Parlement à la majorité des 2/3. Merci beaucoup Antoine Gignot.
En Turquie, maintenant 2 jours après l'annonce des résultats du référendum sur le renforcement des pouvoirs du président Erdogan, le principal parti d'opposition présente une demande d'annulation.
Une demande qui sera déposée dans 1 heure environ devant le Haut Conseil électoral turc, parce que dès l'annonce de ces résultats, les 2 principaux partis d'opposition, le CHP, social-démocrate, et le HDP, pro-kurde, dénonçaient, Éric Biegala, des manipulations lors de ce scrutin. Sur quoi se fonde donc l'opposition pour déposer ses recours ?
Le premier parti d'opposition, fer de lance de la campagne pour le non, considère en effet que des irrégularités peuvent être constatées dans le dépouillement d'au moins 37% des urnes ouvertes dimanche soir, ce qui affecterait entre 1,5 million et 2,5 millions de votes, alors que le oui, selon les chiffres encore officieux, semble l'avoir emporté de 1,3 million voix. Le HDP, le parti pro-kurde, également d'opposition, estime lui que ces irrégularités ont affecté jusqu'à 60% des bulletins dépouillés et devrait lui aussi demander l'annulation du scrutin. A priori, il semble y avoir peu de chances que ces requêtes en annulation puissent être suivies d'effet. Le Haut Bureau électoral, en effet, a déjà, hier matin, annoncé officiellement la victoire du oui, considérant le scrutin comme valide. Qui plus est, ce Haut Bureau électoral semble surtout vouloir suivre les injonctions de l'AKP, le parti du président Erdogan. Quelques heures avant le début du scrutin, il avait par exemple autorisé, sur demande de l'AKP, la prise en compte dans le vote de plusieurs centaines de milliers, voire de plusieurs millions d'enveloppes électorales non estampillées par ses propres services et dont nul ne sait précisément d'où elle provenait. Dans les circonscriptions expatriées, essentiellement celles des pays européens où se déroulait également le scrutin, de telles enveloppes non estampillées n'ont pas été considérées comme valides. Et les bulletins qu'elles recouvraient n'ont pas été pris en compte. Il faut dire qu'en Europe, où le scrutin avait débuté il y a plusieurs semaines, il n'était sans doute pas besoin de bourrer les urnes. L'AKP y est très majoritaire et le oui l'a très largement emporté en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas ou en France, dans les pays où la communauté turque est la plus importante.
Le vice-président américain Mike Pence en visite à Tokyo. Le Japon et les États-Unis lancent des discussions économiques qui pourraient déboucher à terme sur un accord bilatéral de libre-échange. Mike Pence réitère par ailleurs l'engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon face à la menace de Corée du Nord, Pyongyang, qui menace une nouvelle fois d'effectuer des essais de missiles chaque semaine. C'est ce qu'affirme donc le pouvoir en place. Bonjour Frédéric Charles.
Bonjour.
Du côté de Tokyo, comme de Washington d'ailleurs, cette menace nord-coréenne est évidemment prise très au sérieux, mais elle est aussi parfois utilisée par les deux partenaires, notamment le Premier ministre japonais, pour tenter de défendre, de pousser une nouvelle place pour son pays, notamment en matière de défense.
Oui, dans l'esprit de Mike Pence, au-delà de la Corée du Nord, il y a la Chine. À Tokyo, le vice-président américain se sert de cette crise nord-coréenne pour réaffirmer que l'alliance nippo-américaine est, je cite, la pierre angulaire de la paix et de la sécurité en Asie du Nord-Est, et de signaler à la Chine que si elle ne contre pas les ambitions nucléaires de la Corée du Nord, eh bien les États-Unis augmenteront leur capacité militaire en Asie, région où la Chine est décidée, elle, à mettre fin à l'hégémonie américaine. Le premier ministre japonais Shinzo Abe se sert de cette menace nord-coréenne pour pousser à une révision de la constitution pacifique et faire du Japon un pays comme les autres, c'est-à-dire doter le cas échéant d'une capacité nucléaire. Mais le risque d'une escalade entre les États-Unis et la Corée du Nord est réel et inquiète les experts militaires japonais. Donald Trump est peu clair sur ses intentions vis-à-vis de la Corée du Nord. Contrairement à la Syrie, le régime nord-coréen a des capacités de riposte redoutables. Il menace déjà les États-Unis d'une guerre nucléaire en cas d'attaque préventive. Le Japon et la Corée du Sud seraient alors les premières cibles d'une telle réaction nord-coréenne.
Frédéric Charles, merci beaucoup. Vous étiez donc en direct de Tokyo.
Au second tour de la grève de la faim des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, Israël affirme qu'il ne négociera pas, tout court avec le leader palestinien Marwan Barghouti, à l'origine du mouvement.
Oui,
Antoine.
C'est le second jour effectivement de cette grève. Et pour le ministre de la Sécurité israélien, il s'agit bien de terroristes, d'assassins enfermés qui reçoivent ce qu'ils méritent. Et nous n'avons pas de raison de négocier avec eux, dans une tribune qui a été envoyée au quotidien New York Times depuis sa prison de Hadarim, c'est dans le nord d'Israël. Monsieur Barghouti estimait que le mouvement visait à mettre fin aux abus de l'administration pénitentiaire israélienne. On est en ligne avec Marine Vlaovic. Bonjour.
Bonjour.
Alors quel est le sens et quel peut être l'avenir de ce mouvement ?
Eh bien, il semble en tout cas pour l'instant qu'Israël soit prêt à tout pour endiguer ce mouvement. Et c'est peut-être un signe de son succès. Ce matin, l'administration pénitentiaire a suspendu les visites des familles et des avocats des détenus, tandis qu'hier, certains leaders, dont Marwan Barghouti, ont été transférés de prison et placés à l'isolement. Ce ne sont que des moyens d'intimidation, réagit le club des prisonniers palestiniens, pour qui ces mesures de punition collective n'entameront pas la détermination des détenus. Il serait aujourd'hui plus de 1200 à refuser de se nourrir, c'est-à-dire que ça représente près d'un quart des prisonniers politiques palestiniens incarcérés en Israël. Et c'est dans les jours prochains que se déterminera l'avenir de cette grève de la faim illimitée, car encore plusieurs centaines de détenus pourraient s'y rallier, mais c'est déjà l'un des plus importants mouvements collectifs qui a eu lieu depuis 20 ans, se réjouissent les Palestiniens. Un pari certes risqué, mais qui a donc peut-être des chances d'aboutir, mené par Marwan Barghouti, le leader emblématique du Fatah, condamné à une peine de prison à vie, fait un retour fracassant sur la scène politique palestinienne. Et en fait, il joue ici son avenir. S'il réussit son coup, alors il deviendra vraiment un héros, confie un observateur étranger. Les proches de Marwan Barghouti le décrivent déjà comme le Nelson Mandela palestinien, ce qui n'est pas du goût de l'autorité palestinienne, qui a soutenu l'initiative du grand rival de Mahmoud Abbas, mais seulement du bout des lèvres.
Marine Vlaovic, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Ramallah. 12h49, c'est donc la séquence interview qui s'ouvre avec l'avocat Laurent Inker, qui est soutien de Jean Lassalle. Pourquoi soutenir Jean Lassalle, monsieur Inker ?
Parce que c'est un homme différent, parce que c'est quelqu'un qui a des convictions, qui est ancré dans le terroir, et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le slogan. Il ne dit pas qu'il faut marcher, c'est qu'il marche véritablement. Il a fait 5000 km à travers toute la France à la rencontre des Français. Et il a constaté que le corps social français était profondément déchiré, profondément délité. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de soutenir Jean Lassalle, parce que c'est pas un politicien comme un autre, c'est quelqu'un de différent. Et je crois que c'est ce genre de personne qu'il nous faut aujourd'hui pour rassembler les Français autour d'un nouveau projet, autour d'une nouvelle vision de la France.
Ludovic Piétenu.
Bonjour Laurent Inker. Vous dites il n'est pas dans le slogan, mais il est souvent dans le bon sens. C'est un peu ça qui le caractérise, Jean Lassalle. Est-ce qu'il est capable aussi d'aller au-delà de ce bon sens? Quelle proposition, par exemple, vous retiendriez, vous, du projet de Jean Lassalle aujourd'hui?
Jean Lassalle, il est avant tout sur un projet qui consiste à remettre les services publics en place dans le cadre de la désertification actuelle en France. C'est-à-dire de remettre en place tout ce qui manque dans certains territoires pour que les Français aient à leur proximité une école, un hôpital et une justice, des gendarmes, des policiers.
Tout ça, c'est du bon sens. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pas quelque chose. Enfin, est-ce que c'est pas quelque chose que tout le monde souhaite finalement?
Mais pourquoi alors les précédents gouvernements ont-ils enlevé les tribunaux de proximité?
Alors pour quelle raison justement?
Pour des raisons simplement.
Est-ce que ce ne sont pas des raisons politiques?
Non, c'est pas des raisons politiques. C'est purement des raisons économiques. Mais un état de droit doit faire en sorte que le droit fonctionne et que les citoyens puissent effectivement être citoyens.
Oui, mais ces raisons économiques, elles existent de toute façon. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi une manière de prendre à revers un fonctionnement aussi de l'économie plus largement que de
bien
que
sûr,
de
mais il s'agit de faire des économies par ailleurs pour effectivement restaurer l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, l'état de droit est clairement en danger aujourd'hui en France. Il n'y a plus d'autorité.
Alors, économie par ailleurs, si vous voulez renforcer les services publics, vous allez faire des économies où?
Je pense qu'il pense notamment à la fuite des capitaux. Je pense qu'il y a tout un travail à faire. Une fois qu'on voit la Cour des comptes, quand on voit les rapports des comptes les gabegies qui sont faites, quels sont les résultats? Est-ce qu'effectivement, après, on agit? C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit de graves dysfonctionnements au niveau financier. Et donc, il pense qu'il faut restaurer, effectivement, avec du bon sens, effectivement, l'état de droit et le fonctionnement de la France.
Dans le livre programme du candidat Jean Lassalle que vous soutenez, vous avez écrit la partie sur la justice. Jean Lassalle dit ceci, reprenant la phrase de Coluche, il y a deux sortes de justice, vous avez l'avocat qui connaît la loi, vous, et celui qui connaît bien le juge. Les citoyens rencontrés au cours de sa marche, c'était il y a 3-4 ans, ne disent pas autre chose, dit Jean Lassalle. Oui, une justice à deux vitesses.
Une justice à deux vitesses de toute façon, puisque l'aide juridictionnelle aujourd'hui est nettement insuffisante pour effectivement désintéresser des avocats spécialistes. Et donc là, nous avons un vrai problème de discrimination entre les riches et les pauvres.
Vous proposez de reprendre la réforme de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle doit effectivement être reprise, refinancée autrement, de manière à ce que tout le monde puisse avoir, comme on peut avoir droit à des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, on doit avoir droit à des avocats généralistes ou des avocats spécialistes en fonction des problématiques qui se posent.
Sur le tempérament, quand même, Jean Lassalle, il surprend. Bon, évidemment, on l'a reçu quelquefois à ce micro. Il a une attitude extrêmement empathique avec tout le monde. Comment vous qualifieriez ce personnage qui n'est pas tout à fait normé par rapport à ce que l'on peut voir?
Il n'est pas normé par rapport aux normes parisiennes. Je crois qu'il est normé par rapport aux Pyrénées-Atlantiques. Il est berger, fils de berger. Il a eu un métier avant d'être un politicien, et je crois que c'est ce qui fait sa liberté et sa force. Aujourd'hui, nous avons des politiciens qui ont fait de la politique un métier. Pour lui, c'est pas un métier, c'est simplement une fonction. C'est un mandat qu'il incarne.
Il dit même que ce sont des marionnettes dans un théâtre. Pourquoi, par exemple, quand il semble rejeter cette élite comme ça politique, une question sur son programme, pourquoi page 18, par exemple, il propose d'abolir la Cour de justice de la République et de dire que pour les ministres, il faut une justice ordinaire?
Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une justice extraordinaire pour les politiques. Les politiques doivent être logés à la même enseigne que tout le monde. C'est-à-dire, ils ont un mandat, ils ont une fonction. Et ce mandat, d'ailleurs, être limité pas seulement dans l'espace, dans le cumul des mandats, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire, on a un métier avant de faire de la politique et on revient à ce métier après avoir fait de la politique.
Est-ce que vous diriez qu'il est un peu comme Mélenchon dans ce dégagisme ou comme Macron qui faisait scander hier au public de Bercy, à Paris, on n'en veut pas, on n'en veut pas? Est-ce qu'il est lui aussi, Jean Lassalle, un candidat dégagiste?
En tout cas, on ne peut pas les comparer ni à l'un et à l'autre. Non. L'un a 40 ans de métier politicien derrière lui, l'autre a 40 ans sans doute de métier politicien devant lui. Donc c'est quelqu'un de fondamentalement différent par rapport à ces deux personnes que vous citez.
Mais sur cette fibre anti-élite?
Oui, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose sans forcément, vous verrez bien que ce n'est pas un révolutionnaire au sens où il dit qu'il faut refonder une nouvelle constitution. Il dit qu'on peut très bien faire avec cette constitution. Simplement, il faut la faire fonctionner avec autorité en redonnant du pouvoir aux institutions telles qu'elles ont été créées.
Merci beaucoup.
Merci Laurent Anker, avocat à Strasbourg et Paris. Merci.
Invitation. Vous êtes en campagne tous les jours, j'imagine maintenant. Ça doit vous changer de votre métier d'avocat ou c'est la même chose? Merci.
Je vous rassure.
Grisaille au nord, soleil au sud, température 9 à 22 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h avec Bénédicte Robin.